Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nus.
Bonjour, nous aurions pu vous parler d'ADN de Mai Wen si nous ne l'avions pas manqué, de The Craft, les nouvelles sorcières si l'original des années 90 n'était pas encore présent, et on aurait pu vous parler de À bout de souffle ou l'aventura d'Antonioni qui ressortent, mais il n'en est rien, on a fait un retour en arrière en fait avec deux films d'animation. Guillaume, bonjour.
Bonjour Vincent, ben ouais, Petit Vampire hein, de Johan Sfar et Calamity de Rémi Chaillet, hein, les deux derniers... Représentant d'un cinéma d'animation français qui est en méga explosion en ce moment.
Et comme c'est les vacances, ça tombe plutôt bien pour les enfants et puis aussi les adultes qui les accompagnent. Puis Marie nous parlera d'un film en salle depuis le 21 octobre, c'est Miss de Ruben Alves. Alors on peut se permettre des retours sur des films sortis les semaines passées, car les carrières sont plus longues dans les salles. Nous ferons le point sur la situation du cinéma avec un producteur, un réalisateur et un distributeur. On entendra qu'ils tombent bien d'accord sur la difficulté de cette situation et les incertitudes qui en découle. Ce sera la partie finalement reportage de cette émission. Ça prendra quand même la moitié de l'émission et c'est bien normal parce que les problèmes sont quand même sérieux. Mais on parle quand même cinéma, on continue à faire des chroniques dans Cinérama et on débute avec Petit Vampire. Auteur de BD prolifique, déjà réalisateur de deux longs métrages, Johan Sfar a adapté sa série.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
On va faire quoi?
Sauver Petit Vampire et éviter un châtiment innommable.
Qu'est-ce qu'on se mord aujourd'hui?
C'est un bonheur de voir apparaître dès le début du film la mention Johan Sfar Magical Society. Qu'est-ce que ça veut dire alors cette society, cette société magique? Ben, ça veut dire que cette adaptation sur grand écran de la BD du même nom, ben, cette fois elle est entièrement supervisée par son auteur, comme chaque long métrage qu'il a fait jusqu'alors. Ça pourrait sembler anodin comme précision, mais il faut se rappeler qu'avant d'être ce film, Petit Vampire a été décliné en série d'animation, mais qui n'était pas particulièrement réussi. Hein. Une animation faiblarde, des scénarios sans gros éclats, hein. C'était vraiment pour petit enfant. C'est un peu la douche froide quand même. Hein. Mais là, face à la version sur grand écran, ben, on a l'impression que c'est comme si son auteur avait patiemment attendu d'avoir les pleins pouvoirs sur sa créature pour pouvoir enfin y mettre la forme.
Ça fait 300 ans que j'ai 10 ans. 300 ans que je m'ennuie. J'en ai marre d'être toujours coincé ici.
Tu peux pas dire ça.
Moi, je m'en fiche. Je quitte cette maison.
Il a perdu la boule.
Je veux qu'on me traite comme les autres enfants.
Vous allez où?
À l'école, pour rencontrer des amis de mon âge. Le nom de l'élève, Michel Doufon.
Qui es-tu?
Un vampire.
Et je veux être ton ami.
Baillonne-le.
Tais-toi, t'as pas de raison d'avoir peur. Faut pas que tes parents apprennent que j'existe.
C'est mes grands-parents, j'ai perdu mes parents.
Ah bon? Tu les as mis où?
Ah, t'es rigolo, perdu mes parents c'est une expression, ça veut dire qu'ils sont morts.
La forme, et même la grande forme, elle commence dès la première séquence. 300 ans avant notre entrée dans cette salle de cinéma, on découvre Petit Vampire et Pandora, sa maman, bien mal en point face à des gens malfaisants voulant leur perte. Concluant in extremis un pacte avec l'au-delà, grâce au capitaine des morts, Pandora et son fils échappent à la peine capitale, pour mieux se retrouver non mort, métamorphosé en créature de la nuit, appelé à vivre pour toujours. Pandora, devenue un clone de Vampira tout aussi sexy, en profite pour faire oublier à son fils les circonstances de cette transformation, et tout ira pour le mieux jusqu'à... Bon, je vais un peu trop vite, hein, mais c'est ce qui s'en passe à des choses, en fait, hein, dans ce début. Parce qu'avant même le générique de début, donc, on en prend plein les yeux avec ce prologue gothique que n'aurait pas renié Mario Bava ou Roger Corman dans son cycle d'adaptation des nouvelles d'Edgar Allan Poe. On assiste même à une bataille navale dans les nuages rythmée par la fabuleuse musique d'Olivier Davio. Cette partition est d'ailleurs tellement inspirée qu'on songe même au style du regretté Michel Legrand lors d'une majestueuse scène de vol. Alors oui, la Magical Society est bel et bien magique et a mis les petits plats dans les grands pour dérouler un tapis rouge luxueux. Ce titre n'est de toute façon pas dépaysant, car plus qu'une invitation dans le monde de la nuit, c'est carrément une ode que lui compose Sfar. J'ai parlé plus tôt de Mario Bava et de Roger Corman, mais c'est que la partie immergée de l'iceberg. Sfar, il voue un culte à ses références et il va les parsemer de manière explicite dans tout le film. Si vous êtes attentif, vous remarquerez par exemple l'affiche du Nosferatu de Murnau dans la chambre de Petit Vampire. Plusieurs fois dans le film, il y a la toute petite bande, la toute petite troupe qui habite désormais dans une maison hantée uniquement visible aux yeux de ceux qui y sont conviés, se consacre à l'une de leurs activités favorites qui consiste à animer un ciné-club de films d'horreur. On y retrouve le Masque de la Mort Rouge, La Nuit de Loup-Garou, Frankenstein et le Monstre de l'Enfer. Marguerite, l'espèce d'enfant rapiécé, ira même jusqu'à crever l'écran de projection parce qu'il voulait sauver les monstres qui perdent toujours à la fin. Il y a donc une manière d'amener toutes ces références au niveau des enfants qui vénèrent Peter Cushing, on est bien loin des standards actuels, de façon terriblement sympathique et poétique.
Depuis que je te connais, je suis très heureux. Ça veut dire qu'il y a des trucs après la mort.
Nous, la mort, on est contre.
Nous, la mort, on trouve que c'est un scandale.
Il n'y a pas grand-chose à faire dans cette maison, à part les tableaux qui t'entraînent dans d'autres mondes, les bagarres au sabre dans la salle d'armes et le bateau de pirates.
Le cœur de l'histoire de Petit Vampire se développe lorsque ce dernier décide justement d'aller voir au-delà de cet univers qu'il connaît très bien et de s'aventurer dans le monde des vivants. Petit Vampire en a marre de tourner en rond et veut en effet aller à l'école pour apprendre de nouvelles choses. C'est une idée qui étonne tous ses amis monstres et il n'est suivi dans sa fugue que par Fantomate, le bulldog rouge à l'accent marseillais qui veille sur lui. Il arrivera à rentrer en contact avec Michel, un petit garçon orphelin qui vit chez ses grands-parents en lui faisant la nuit ses devoirs de maths tandis que Michel, lui, découvrira le monde excentrique de l'au-delà. Bon, il était déjà préparé, puisqu'il avait dans sa chambre l'affiche de La Nuit de tous les mystères de William Castle et celle plus étonnante ou franchouillarde des deux crocodiles de Joël Seria avec Jean-Pierre Mariel. Alors, je ne veux pas vous gâcher la surprise en vous en disant plus sur cette intrigue, mais cette soif de connaissance et d'amitié à cheval entre deux mondes va se retrouver bouleversée par l'apparition de Gibus, un antagoniste au look unique qu'il est difficile de ne pas voir comme étant un joli clin d'œil à Méliès. Antagoniste qui permettra aussi d'aborder en filigrane le thème de la dictature et de la démocratie lors d'une révolte d'insectes. C'est vraiment un film épatant, ce Petit Vampire, parce qu'on arrive à peine 1h22 de long métrage à créer une aventure épique, délirante et à brasser des thèmes plutôt difficiles, comme le deuil lorsqu'on est jeune et la difficulté de se sentir différent. En cela, Johann Sfar a très bien compris qu'un bon film de monstre parle de la souffrance d'être rejeté à l'image du sublime Freaks de Todd Browning. Et puis, de toute façon, comme il le fait si bien dire dans son film, les monstres sont gentils parce qu'ils aiment aussi le chocolat.
Et pareil, on peut peut-être parler alors très rapidement des voix françaises. J'ai vu qu'il y avait Jean-Paul Rouve et puis Alex Lutz et
Camille Cotin.
Et Camille Cotin, ouais. Oui.
Donc Jean-Paul Rouve qui joue le capitaine des morts, il est un peu falo parce qu'à côté Alex Lutz envoie du lourd dans le rôle de Gibus, le grand méchant.
Et j'imagine. Ouais. Eh bien, ce Petit Vampire est en salle depuis le 21 octobre. C'est le cas aussi de Miss de Ruben Alves. À l'âge de 9 ans, Alex a un rêve, être un jour élu Miss France. Et il va tenter de réaliser ce rêve 15 ans plus tard. Et c'est Marine qui nous en parle.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
Oui, oui, oh, ça va là ?
Moi, mon rêve, ça serait de réparer les jouets cassés.
Mon rêve, c'est d'être Miss France.
Alex est un jeune homme très androgyne qui vit à Paris dans une joyeuse colocation composée de sa mère adoptive, de prostituées travesties, de travailleuses clandestines indiennes et de dealers sympathiques. Quand il était petit, il rêvait de devenir Miss France, un rêve balayé par la mort tragique de ses parents, mais voilà que soudain ce rêve réapparaît et avec lui la ferme intention d'assumer sa différence. Il a beau être un homme, il participera à Miss France et gagnera le plus célèbre concours de beauté hexagonal.
J'ai besoin de ton aide.
T'aider à quoi ?
À devenir Miss France.
Non, je suis très sérieux.
D'accord.
Avant le physique, il y a le mental.
Je me sens plus fort en femme.
3, 4,
tu peux avoir une explication ?
Il n'y a pas ma taille.
Il y a des perches jusqu'au 41.
Je fais du 42.
Alors tout commence plutôt bien, puisque cette comédie populaire, grand public, réussit à glisser tout de même quelques scènes gentiment subversives. Par exemple, Alex demande conseil à Amanda Lear pour devenir une vraie femme. Puis il s'entraîne à marcher en talons au Bois de Boulogne, encouragé par toutes ses amies prostituées. Malgré quelques dialogues parfois un peu trop écrits, le rythme est enlevé et la distribution est des plus éclectiques, avec tout de même une mention spéciale à Thibaut de Montalembert et Stéphie Selma, rescapée de la série 10% et qui semble bien plus s'amuser amusé ici que dans la dernière saison. Dans Miss, l'homme est une femme comme les autres. Le film n'est pas un récit autour de la transidentité, mais un feel-good movie qui a pour personnage principal un personnage gender fluide, c'est-à-dire qu'il ne s'assigne pas à un genre en particulier. Il ne veut pas changer de sexe ni réellement être une femme, mais il se sent plus fort en étant un homme qui assume sa féminité. Pour incarner ce héros hors norme, le réalisateur Ruben Calvez, dont c'est le second film après son César pour La Cage Dorée, Ruben Calvez donc a fait appel à Alex Vetter, l'un des premiers mannequins officiellement androgynes à avoir défilé pour la collection Femmes de Jean-Paul Gaultier il y a 3 ans, et qui se voit offrir ici son premier rôle au cinéma. Alors il est vrai que l'on est habitué à ce que ces sujets, la prostitution, l'identité de genre, soient abordés à travers un prisme dramatique. Pourtant, ici, le film opte pour un ton débordant d'optimisme qui fait, c'est vrai, parfois un peu grincer des dents. Les personnages s'entraident tous sans aucun préjugé, tout le monde accepte qu'Alex s'habille en femme comme si la transphobie ordinaire n'existait pas, et l'intolérance, de façon générale, semble être absente du monde merveilleux que Ruben Calvez nous dépeint. On aurait aimé peut-être un peu plus de questionnement sur les injonctions à la féminité, mais en même temps, était-ce vraiment le rôle d'un réalisateur que de s'interroger sur ce sujet et de parler à la place des femmes ? Pas sûr. Le film, en tout cas, a réussi à rester sur le fil du politiquement correct, à critiquer gentiment l'institution Miss France, à travers notamment le personnage Isabelle Nanty, tout en vendant du rêve, histoire quand même de préserver la tradition. Car on comprend lors de la dernière séquence du film, qui convie plusieurs anciennes Miss France, que le projet s'est fait avec la bénédiction de cette institution vieille de 65 ans. Le manque de critique à l'égard du concours de beauté, flagrant dans la dernière partie du film, rend ce dernier un peu indigeste, avec l'impression que tout le film n'est qu'une gigantesque pub déguisée. Il n'en demeure pas moins que Miss est une comédie grand public plutôt réussie, avec un sacré rythme, une belle ode à la différence, à l'authenticité et au vivre ensemble. En décidant de s'emparer d'un sujet délicat sur le mode du feel-good movie assumé, Ruben Calvez s'autorise à toucher un plus large public et peut-être, qui sait, à rendre un peu plus ouvert d'esprit certains spectateurs qui penseraient encore l'humanité de façon binaire. Et tant mieux, car le cinéma, ça sert aussi à ça.
Tu n'es pas une vraie femme et tu ne le seras jamais.
Ouais, mais je pensais que tu serais un peu fière de moi.
Mais je suis fière de toi, je suis fière de toi. Mais de toi au naturel.
Tu lâches rien.
Et tu vas en finale.
Bienvenue à la cérémonie Miss France.
J'aime les enfants, les handicapés. Enfin non, je n'aime pas les...
Pourquoi voulez-vous devenir Miss France ?
Pour devenir quelqu'un.
Miss de Ruben Alves est en salle depuis le 21 octobre. Les salles, eh bien, nous allons en parler maintenant avec un producteur, un réalisateur et un distributeur.
C'est un état d'esprit.
Cinérama. Balance. Chronique. Invité et nouvelle du 7e art.
Je t'en prie, cache ta joie.
Le cinéma n'avait pas besoin de ça. Impacté par le confinement, en convalescence pendant tout l'été, les salles de cinéma n'ont jamais refait le plein de spectateurs. Et voilà qu'on leur impose dans une large partie du territoire un couvre-feu synonyme de séance en moins. Alors la grogne est palpable au sein de la grande famille du cinéma, entre les producteurs, distributeurs et même des réalisateurs que nous avons rencontrés durant le Festival du cinéma méditerranéen qui a pu se maintenir du 16 au 24 octobre à Montpellier. Alors la première chose qui a été incomprise par les professionnels, eh bien, c'est le couvre-feu appliqué aux salles de cinéma et de spectacle, alors que celles-ci avaient déjà obligation de respecter un protocole sanitaire. On écoute Nadim Chekroua, producteur d'un film alors excellent, L'homme qui a vendu sa peau, de Kauter Benania, et qui est attendu sur les écrans, alors si tout va bien, le 16 décembre prochain. Alors pour lui, il fallait que le ticket fasse office d'autorisation à rentrer chez soi, en dehors des limites du couvre-feu.
Le secteur du cinéma est extrêmement sinistré depuis le confinement. Donc tous les intervenants se battent pour essayer de faire vivre les choses. Et là arrive ce truc de couvre-feu à 21h qui, franchement, puisque d'après ce que je comprends, l'idée était d'interdire les grands rassemblements de jeunes, les fêtes privées, il n'y avait rien de plus facile que de dire vous pouvez sortir d'une séance à 22h avec votre ticket de spectacle et rentrer chez vous. Les trains circulent le soir, les gens vont travailler quand ils doivent le soir. Donc ça aurait été un signal très fort de pouvoir dire vous pouvez quand même aller au cinéma. Voilà, c'est pas... Je trouve ça vraiment dommage. Du coup, ça vient impacter un secteur qui est déjà fragilisé. Et puis l'autre chose, parce que On a l'impression qu'on peut juste aller prendre les transports, blinder et travailler. Il se trouve que pour beaucoup de personnes, c'est un travail. Le secteur culturel est un travail. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que quand même, on s'en est rendu compte pendant le confinement, qu'on avait un besoin, comment dire, d'autre chose, quoi, de nourriture spirituelle pour ne pas sombrer totalement dans le nihilisme, le défaitisme, la dépression. Et qu'on peut rester chez soi, regarder Netflix, ça, pourquoi pas, ça, mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a d'autres choses qu'on voudrait continuer à pouvoir faire. Et à partir du moment, comme je disais au début, où ce n'est pas un danger premier, je ne comprends pas que cette décision n'ait pas été prise. Je n'arrive toujours pas à comprendre.
Vous êtes producteur d'un film qui va sortir au mois de décembre. Vous avez déjà financé le film.
Ouais.
Après, est-ce que ce n'est pas le distributeur, finalement, qui est le plus embêté dans cette situation, avec les changements d'horaire dans les salles, ou même si votre film va sortir un peu plus loin, décembre ou...
16 décembre. Ouais.
16 décembre, ouais.
Tout le monde est embêté. En fait, c'est une aventure collective. Donc, le distributeur, en premier lieu, il est au front, il est en première ligne. Donc, c'est le premier impacté. C'est vrai qu'on ne sait pas. Ça, c'est un film dont on travaille, comme je disais, depuis 3 ans. Quand on a fait des projections, les premières projections publiques se passent hyper bien. Donc, on se dit, c'est un film tourné vers le public, vraiment pensé pour le public. On ne sait pas si le public sera là. On ne sait pas s'il pourra être là. C'est ça le truc le plus compliqué. On ne sait pas. On ne sait rien, en fait. Donc, on navigue un peu à vue. Donc, évidemment, le distributeur est impacté par ça. Mais derrière, tout le monde. Le film a été financé par des sources de financement très différentes. Donc il y a des subventions publiques qui se récupèrent par l'impact économique, on va dire, de faire travailler la région, par exemple, ou, etc. Mais il y a aussi des financements privés. Il y a des partenaires privés qui ont investi de l'argent dans le film. On a notamment un coproducteur qui s'appelle Guillaume Rambourg, une société qui s'appelle Metaphora, et les frères Kilani, qui sont des personnes qui ont investi de l'argent très tôt dans le film. Et eux sont impactés évidemment par le succès du film. Il y a plein d'autres coproducteurs du film, je ne peux pas tous les citer, mais voilà, tout le monde est intéressé par le succès du film.
Les distributeurs sont effectivement en première ligne. Les grands distributeurs qui ont en charge des films dédiés à l'international, les fameux blockbusters, les repoussent de 6 mois, quand ce n'est pas d'un an, comme le Dune de Denis Villeneuve, attendu à l'automne 2021. Alors on a voulu faire le point avec un distributeur qui joue encore le jeu, Ad Vitam. C'est lui qui a distribué Effacer l'historique du duo Carverne et de l'Épine, ou encore Adolescente de Sébastien Lifshitz. On a demandé à Lucie Daniel, assistante de la programmation, quels étaient les problèmes que les distributeurs rencontraient. Les 8 prochains jours vont être déterminants.
Les premiers problèmes qu'on rencontre, c'est déjà savoir si le public sera au rendez-vous sur les dates qu'on expose longtemps à l'avance pour pouvoir mettre en œuvre tout le système marketing que peut avoir besoin un film. Et là, ces dernières semaines, effectivement, les annonces ont été une à une un peu un coup près pour la distribution, parce qu'effectivement, on est confronté à des décisions qu'on n'a jamais eu à prendre, à savoir est-ce qu'on maintient ou non la date d'un film, est-ce que le public sera là, est-ce que les salles seront là, parce qu'on a aussi assisté à la fermeture un petit peu de salles qui ne pouvaient pas avoir tous les financements, etc., et surtout sans savoir quels seraient les financements, les aides qu'ils pourront avoir. Donc, nous, on a pour l'instant choisi de maintenir nos sorties sur l'automne. Je pense qu'on va tous se regarder en tant que distributeur et exploitant pour savoir comment les 15 prochains jours vont se dérouler. Les chiffres ont l'air plutôt de bon augure sur la première journée un peu hier. Donc, les séances de 18h n'ont pas trop l'air de faire peur aux gens. Et je pense que là, on est dans une période de vacances aussi qui est propice à ce que les gens profitent plus en journée des salles. Donc, on va voir. On a vu des choses se décaler. Mais effectivement, il y a des gros, gros enjeux financiers derrière. Et ça, je pense que parfois, le public n'est pas au courant parce qu'ils ne sont pas, derrière tout ça. Mais derrière, il y a un énorme travail d'anticipation et de méfiance malgré tout vis-à-vis de la période.
Lucie Daniel, vous avez dit que finalement les chiffres pouvaient être bons. Est-ce que c'est une des données de cette crise, c'est-à-dire que les gros poids lourds américains ne sont pas là, eux ils ont carrément décidé de ne pas être sur les écrans. Est-ce que ça, franchement, c'est un avantage finalement pour vous? Est-ce que vous en tirez parti?
Alors pour certains films, oui, parce qu'effectivement, ça nous a permis de sortir sur beaucoup plus de salles que prévu. On a pu le voir sur des films comme Le Caverne des Lépines et Facile Historique sur fin août, qu'on a sorti sur plus de 600 copies. On a vu des petits films, des films qui auraient dû être potentiellement plus intimistes, qui se sont retrouvés à plus de 200 salles et qui ont fait leurs entrées, qui peut-être n'auraient jamais été celles qu'elles ont été et qui continuent de se poursuivre, parce que là, on voit que la carrière d'un film est du coup plus longue. Les salles sont en demande de ça. Elles créent énormément de dynamisme en créant des rencontres, des Skype, des intervenants locaux, etc. Donc il y a vraiment un travail de petite fourmi fait aussi par les salles. Donc oui, pour les films français, pour les films étrangers qui sont plus fragiles, il y a eu de la place, effectivement. Après, les gros, les majors, etc., malheureusement, dépendent aussi d'un marché mondial. Et du coup, les arbitraires sont beaucoup plus complexes que nous à l'échelle de la France. Donc effectivement, les exploitants attendent les sorties qui maintenant sont quasiment reculées de 6 à 8 mois, voire un an. Donc, pour certains, voire non datés même. Donc voilà, mais oui, ça, on a pu en bénéficier, on a eu de la place et négocier des plans de sortie et un travail sur les continuations assez formidable.
On peut citer des films. Alors, les Faciles Historiques, il aurait pu faire une bonne carrière quand même, on peut le noter. Oui. Est-ce que vous avez d'autres exemples ?
Oui, en l'occurrence, on a le documentaire de Sébastien Lifshitz, Adolescente, qu'on a sorti tout début septembre, qui d'ordinaire fait d'excellents chiffres, mais là, continue d'avoir une carrière. Là, c'est la sixième semaine. On va, je pense, dépasser les 100 000 entrées dans quelques temps. Et c'est vrai qu'il a bénéficié d'une exposition formidable, avec notamment les dates de tournée qui continuent à faire aujourd'hui, et les festivals qui font un travail formidable de mise en lumière de tout ça, quoi.
Parmi les films qui ont mieux fonctionné sous une ère Covid, on peut également citer Antoinette dans les Cévennes, la comédie de Caroline Vignal avec Laure Calamy, qui nous emmène sur un âne dans les Cévennes, a dépassé les 600 000 entrées. Producteurs et distributeurs ne sont pas satisfaits de la tournure que prennent les événements. Les réalisateurs, alors pas davantage. Le franco-algérien Farid Bentoumi, dont le film Rouge est attendu le 25 novembre sur les écrans, et à qui l'on doit Good Luck Algeria, cette histoire d'athlète algérien aux Jeux Olympiques d'hiver qui était sortie en 2015, eh bien, ce réalisateur ne veut pas d'un monde sans salle de cinéma. Double peine pour Farid Bentoumi, son film Rouge aurait pu se retrouver au Festival de Cannes.
Alors, moi, je suis terrorisé comme tout le monde par cette épidémie et je trouve que c'est dur, c'est très très dur. Déjà, le Festival de Cannes a été annulé, ce qui aurait été une vitrine incroyable pour le film. Et je pense qu'un film comme ça, il avait vraiment son droit de cité dans un gros festival comme le Festival de Cannes, où le bouche à oreille va hyper vite et où les gens en parlent. Et je trouve qu'un film engagé, où on voit des ouvriers dans une usine, ce qui est assez rare, ça aurait été génial de le montrer là-bas, au milieu des paillettes cannoises. Ça n'a pas eu lieu, on a fait notre première à Deauville. La sortie, elle est toujours prévue le 25 novembre. Moi, je continue, je raconte ça parce qu'il y a une histoire de sortie du film qui devait sortir début octobre, puis finalement en novembre, et puis voilà. On continue à faire les festivals, on continue à faire les avant-premières, on va voir ce qui va se passer dans les 15 prochains jours. On est un peu au jour le jour, on suit les exploitants qui nous disent « Ah, c'est difficile, sans les séances du soir, ça va être difficile », mais on continue, on a envie de cinéma. Moi, je suis là pour offrir un film de cinéma. J'ai pas envie du tout, mais du tout, que les gens se retrouvent derrière leur télé à regarder Rouge en se disant « Ah bah super, je vais aux toilettes, ah bah je vais me chercher une glace, je vais me chercher du... » Non, j'ai pas envie, quoi. J'ai envie que les gens soient ensemble, qu'ils ressentent les choses ensemble, qu'ils partent dans cette histoire de tragédie. J'ai fait un film de cinéma où quand on découvre le Lac Rouge, j'ai envie qu'on le découvre sur un grand écran, qu'on se dit « Waouh, putain !» et qu'il y ait 50 personnes autour de nous qui disent « Waouh, putain !» au même moment.
C'était Farid Bentoumi, le réalisateur de Rouge, film pour l'instant programmé sur les écrans français le 25 novembre. Un film très bien réalisé, engagé sur les lanceurs d'alerte. Il se passe dans une usine polluante avec Zita Enro, découverte dans Fatima, Samy Bouajila et Céline Salette. Tous ces professionnels du cinéma que vous avez entendus ont été rencontrés au Festival du cinéma méditerranéen à Montpellier, une manifestation qui, comme Deauville et Angoulême, ont pu être maintenue et on espère bien qu'il va y en avoir d'autres, car mine de rien, tu y étais aussi, Guillaume, hein, dans, oui. dans ce festival. On a vu beaucoup de spectateurs et tous les professionnels, de toute façon, s'accordent à dire que si on veut ramener les spectateurs dans les salles, il faut faire un maximum d'événements, c'est-à-dire faire venir les acteurs, les comédiens, ne serait-ce qu'avec une liaison Skype, enfin voilà.
Oui, que ça reste un événement, en fait. La salle pour la projection d'un film. Et là, on a eu, je pense, une très très belle illustration de ce que c'était une équipe vraiment très organisée qui, malgré le retournement de situation du couvre-feu trois jours avant, a réussi à rebondir, à maintenir les interventions, que ce soit en direct ou en Skype ou en visio. Et les gens qui ont pu vraiment venir, hein, et le monde a répondu présent. Le public était là, les salles étaient remplies, ça s'est très bien passé, ça fait un bien fou.
On verra, hein, prochaine étape, il y a d'autres festivals effectivement qui sont, je pense, encore programmés, je pense au Festival des Trois Continents à Nantes. Tu as vu beaucoup de films durant ce festival, mais tu ne vas pas nous en parler pour l'instant, tu les as gardés eh bien, au fur et à mesure où ils sortiront sur les écrans. En revanche, tu as fait un petit rattrapage, c'est le Grand Prix à Annecy en 2020. Calamity nous raconte l'histoire d'une des femmes les plus réputées de l'Ouest américain, c'est Calamity Jane, et donc c'est encore un film d'animation.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi ?
Vous employez des filles maintenant ?
Ouais, et celle-ci est très efficace. Aussi efficace que mal élevée.
On m'appelle Calamity. Calamity Jane.
Ça n'a pas échappé hein, aux amoureux du genre. Hein. Depuis maintenant presque 30 ans, le western est à la traîne. Donc c'est fini hein, le temps où Eastwood il avait pu rafler les plus importantes statuettes des Oscars avec son exceptionnel Impitoyable, qui était en fait plus un chant du film qu'autre chose. Hein. On avait bien eu Tombstone hein, ou Wyatt Earp, mais l'engouement était bien terminé. Depuis, on a pu apprécier hein, quelques petites productions comme le sublime Bon Tomahawk de S. Craig Zahler, mais rien qui inverse la vapeur. Sa mythologie ne semble plus parler à notre époque. Et pourtant, de mythologie, c'est ce dont il est question hein, dans Calamity de Rémi Chaillet, qui nous propose de revisiter un mythe de l'Ouest, mais à la française. C'est une combinaison pas vraiment étonnante pour les amoureux du genre qui savaient que l'Hexagone et le Far West font bon ménage depuis la naissance même du cinéma. On a eu les westerns camarguais de Joé Aman et Jean Durand entre 1909 et 1914. Julien Duvivier avait fait Asselma en 1919 et nous pouvons redécouvrir d'un œil nouveau la légendaire Calamity Jane en animation. On ne peut d'ailleurs échapper à ce nom inscrit en gros sur l'affiche « Calamity ». En regardant de plus près, on peut y lire un sous-titre révélateur qui va indiquer l'orientation du récit « Une enfance » de Martha Jane Canary. Rémi Chaillet l'a confié lors de la promotion du film. Il désirait s'intéresser autant au personnage de Calamity Jane qu'à ce qu'elle représente et pourrait représenter à notre époque. Avant d'être la célèbre figure devenue historique, Calamity Jane est donc Martha, une jeune fille qui voyage avec son père et ses sœurs vers l'Ouest dans l'espoir d'y trouver des lendemains meilleurs. Ayant perdu sa mère, elle a la lourde tâche d'assister son père dans la bonne gestion de la petite famille sur les routes sauvages et dangereuses. L'un des problèmes réside bien sûr dans sa condition de femme, car elle est jugée physiquement inférieure aux hommes du convoi mené par Abraham et n'a que peu de latitude pour aider la communauté. Alors, bien qu'elle prouve qu'elle est capable de faire beaucoup de choses, son audace est considérée comme une calamité, d'où le célèbre surnom, et rien de ce qu'elle va entreprendre ne va trouver grâce aux yeux des autres. Les hommes n'apprécient pas cette atteinte à leur domination naturelle et les femmes ne comprennent pas pourquoi elles ne restent pas dociles à sa place. Lorsqu'une affaire de vol va jeter des soupçons sur elle, Martha va fuir, non pas pour échapper à la sentence, mais pour rétablir la justice sur son nom et enfin prouver qu'elle vaut autant que ses camarades masculins.
Qu'est-ce que tu fais avec ce pantalon ?
C'est pour les chevaux.
Quelle calamité ! Je ne tolérerai jamais une telle tenue dans notre communauté.
Martha Jane Canary, c'est un drôle d'oiseau qui va défier les conventions de son époque en changeant de ramage. Pour des raisons pratiques, elle va se couper les cheveux et enfiler un pantalon, entraînant toute une série de confusions et d'imbroglios dans sa quête des objets volés. Et c'est là que le scénario de Rémi Chaillet, Fabrice de Costil et Sandra Tosello tapent vraiment dans le mille. C'est dans ce subtil mais déterminant détail qui vont permettre au personnage d'exister pleinement et de nous passionner. C'est pour sa liberté de mouvement et non pas par rejet de son sexe qu'elle change d'apparence et enfin être pleinement maîtresse de son destin. Son pantalon va l'aider à piloter sa caravane alors que son père blessé ne peut plus tenir la barre et ses cheveux tombent car elle ne veut plus qu'il soit un point faible lors des bagarres avec l'arrogant fils d'Abraham qui ne peut lui être reconnu autrement comme un bonhomme plutôt que comme une personne compétente. Donc je reprends pour le coup les propos du réalisateur qui résume ça parfaitement bien. Calamity Jane n'est pas un garçon manqué, c'est une fille réussie.
Ah !
Les familiers du travail du réalisateur ne seront pas surpris. L'émancipation, la recherche d'un plus large horizon, les grands espaces, l'appel de l'aventure sont des constantes chez lui. Il y avait déjà sa participation au tableau de Jean-François Laguioni en 2011, avec ses personnages dessinés qui vont chercher leur peintre pour établir une égalité dans une toile, et aussi Sacha de Tout en haut du monde, une jeune aristocrate qui va partir vers le Grand Nord sur les traces de son grand-père explorateur. Il y a un style bien à lui, hein, qui peut tout d'abord étonner. À cause de ses décors et de ses fonds plutôt simples, en couleurs unies, on pourrait s'attendre à une animation rigide. Mais heureusement, il n'en est rien, et le film se permet même des scènes d'action parfois burlesques qui n'ont rien à envier aux chorégraphies d'un film live. En plus, si vous êtes amateur de BO française, vous reconnaîtrez sûrement le doubleur de Kurt Russell pour justement le western Tombstone. Donc la cavalerie, les mines d'or, les grands espaces, les trappeurs, rien ne manque dans cette relecture de la mythologie de l'Ouest, conçue de telle sorte à ce qu'elle entre de plein pied dans le 21e siècle, un peu reluctant à ces figures du passé. Ben, ça tombe bien, car ça a tout pour plaire aux adultes, mais aussi aux plus jeunes, qui est la nouvelle génération de futurs conteurs.
Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, le grand vainqueur de Annecy 2020, est en salle depuis le 17 octobre et va y rester encore un petit moment.
Au revoir, au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison ?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre, comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
On se retrouve la semaine prochaine dans Cinérama avec à nouveau des chroniques de Singing Club, Slalom, La Nuée et à nouveau un film d'animation. Cette fois-ci, il est allemand, c'est Fritzi.